Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On vote en Europe dans 6 mois, bien sûr, pour les élections européennes, mais bien avant aussi pour des scrutins nationaux et dès demain pour les élections présidentielles en Géorgie. Un scrutin assez symbolique, tout comme la fonction, mais la campagne a été marquée par un scandale qui en dit long sur l'état du pays et de sa justice. Il s'agit de l'affaire du meurtre de deux jeunes adolescents poignardés lors d'une bagarre à la sortie du lycée. Leur famille, ravagée par la douleur, tente d'obtenir justice. Bonjour Régis Janté.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans le Caucase. En quoi cette affaire a-t-elle pesé sur le choix des électeurs ?
Elle a pesé moins à cause du meurtre de ces deux adolescents que de son traitement par la justice ensuite. Parce qu'il s'est su, car tout se sait dans ce petit pays, que Mirza Soubeliani, un haut placé du bureau du procureur général, avait soustrait à la justice son fils et son neveu, tous deux impliqués dans ce meurtre. Alors apprenant cela, les familles des victimes ont appelé à protester et la société s'est indigné face à cette injustice flagrante, au point que le gouvernement aurait passé un accord avec Soubeliani en lui demandant, afin de calmer la colère populaire, d'aller en prison pour 1 an. C'est ce qu'a révélé ce dernier en octobre, depuis sa prison, parce qu'il avait le sentiment que le pouvoir n'allait pas respecter sa parole finalement, et donc le relâcher au bout d'un an. Aujourd'hui, le gouvernement est face à un dilemme. Soit il rend justice et Soubeliani rendra public les informations très compromettantes qu'il dit avoir pour sortir de prison. Soit il libère Soubeliani et la justice ne sera pas rendue avec les conséquences électorales que l'on sait.
Alors les deux familles des victimes ont installé des tentes devant l'ancien Parlement et comme cela pose problème à quelques jours du second tour de la présidentielle, la mairie a demandé le 10 novembre dernier à ce qu'ils évacuent la place pour installer un sapin de Noël, et cela s'est très mal passé, on écoute.
Comment je peux arrêter? Ils ont détruit ma famille. Pourquoi je continue à vivre?
Alors ce monsieur qu'on entend pleurer, c'est Zaza Saralidze, le père d'un des deux adolescents tués. C'est lui qui a lancé le mouvement de protestation une fois découvert que certains donc tentaient d'échapper à la justice avec le soutien du gouvernement. Ce soir-là, la police a vite compris qu'elle n'arriverait pas à ses fins. On entend ici, hélas, tout le désespoir de ces familles. D'autant que la mère de Zaza Saralidze avait fait un malaise, d'où l'ambulance que l'on entend à la fin.
Alors en préparant cette émission, Régis, vous vous êtes rendu compte que la chaîne de télévision Roustavi 2 est omniprésente. Or, c'est la chaîne de l'opposition. On écoute un petit extrait du direct de Roustavi 2 le 10 novembre dernier.
Beaucoup de gens rejoignent la manifestation ce soir sur l'avenue Roustavelli et le directeur général de notre chaîne est sur place. Bonsoir, Nika.
Bonsoir. D'abord, vous savez, je suis un citoyen solidaire avec les gens qui sont maltraités par ce gouvernement. Certes, je suis un juriste de formation, mais j'ai dû m'improviser journaliste. Je ne sais toujours pas bien tenir un micro, mais c'est nécessaire d'être ici et de raconter ce qui se passe.
Si on comprend bien, Régis, on est en pleine récupération politique ?
Oui, même si toutes les télévisions du pays étaient là ce 10 novembre, mais c'est vrai que c'est le patron de Roustavi 2 en personne, Nika Gouaramia, qui se trouve ce soir-là au milieu des manifestants et aux côtés des familles de victimes un peu partout. Il a passé la soirée à donner la parole à Zaza Saralidze, aux ONG ou aux responsables du Mouvement National Uni, le parti de l'ancien président Mikhaïl Saakachvili, qui dirige sa formation depuis l'étranger où il est en exil, parce qu'accusé par le pouvoir dans plusieurs dossiers, d'abus d'autorité notamment, des accusations purement politiques, estime l'intéressé.
Vous êtes donc allé demander quelques jours plus tard à Zaza Saralidze pourquoi il avait accepté de politiser sa lutte.
Je n'ai pas choisi ça. Notre mouvement est ouvert à tous, peu importe qu'on soit de l'opposition ou pas. Toutes les télévisions sont les bienvenues et je les remercie de rapporter ce qui se passe. S'il n'y avait pas ces télés, rien n'aurait bougé. Moi, je veux la justice. Mon affaire, ce n'est pas la politique. Et tous ceux qui veulent soutenir notre cause sont les bienvenus.
Pour conclure, Régis, on peut dire qu'il y a du positif dans cette affaire, au sens où en Géorgie, on voit des gens se battre pour la justice, ils peuvent se mobiliser pendant des mois, occuper un lieu central de la capitale.
Oui, en effet, la Géorgie fait vraiment figure d'exception dans l'ancien espace soviétique. On peut y manifester et même voter contre le pouvoir en place sans avoir peur. Il y a certainement une démocratisation en cours dans ce pays, mais cela se fait dans la douleur, comme partout ailleurs dans le monde, à vrai dire.
Merci Régis Janté à Tbilissi.
Երազում ես ունենալ աշխատանք, որ կանես հաճույքով ոչ թե պարտադրված, ուրեմն գործերի հաջողություն.
Et en Arménie, le nouveau premier ministre démissionnaire Nikol Pachinian, issu de la révolution d'avril dernier, espère obtenir la majorité au Parlement grâce aux élections anticipées qui auront lieu le 9 décembre prochain. Une révolution qui avait suscité de nombreux espoirs sur la capacité de réforme du pays et de son gouvernement sur les sujets de société. C'est en tout cas ce que croyaient les militants homosexuels qui pensaient avoir trouvé leur candidat. Espoir déçu, c'est le reportage à Erevan de Constance Léon.
En Arménie, être gay est toujours un tabou en 2018. Depuis 2003, l'homosexualité n'est plus un crime en Arménie, mais aucune loi ne condamne les propos ou les crimes homophobes. Selon un rapport publié en 2016 par l'association Pink Armenia, plus de 97% des Arméniens trouvent qu'il est inacceptable qu'un couple gay s'embrasse en public. Installé à la terrasse du café du lieu où il travaille, Vardan préfère ne pas révéler son nom de famille. Il a peur d'être renvoyé ou d'être victime de représailles de la part de ses collègues s'il venait à apprendre son homosexualité.
Des internautes ont menacé de me frapper s'ils me trouvaient, moi ou ma famille. J'ai déjà porté plainte deux fois pour ce type de menace et il ne s'est rien passé. Ça ne sert à rien. Si la police ne fait rien, c'est pire même pour moi.
Absolutely nothing.
La révolution d'avril dernier avait pourtant été porteuse d'espoir pour la communauté LGBT. Mais cela n'a rien changé, les manifestations anti-gays se sont poursuivies, un forum sur les droits homosexuels a dû être annulé pour des raisons de sécurité et 9 activistes ont été lynchés dans le sud du pays. Récemment, des autocollants aux couleurs arc-en-ciel et figurant le visage de Nikol Pachinian ont été collés dans le centre-ville d'Erevan pour laisser penser que le Premier ministre soutenait la communauté LGBT. Un canular visant à le déstabiliser. Nikol Pachinian, qui a récemment déclaré que l'opposition, le Parti républicain, avait longtemps brandi la question LGBT pour ne pas aborder les sujets de fond comme la corruption.
Avant la révolution, je pensais que l'actuel Premier ministre serait ouvert d'esprit et soutiendrait les personnes LGBT. Mais juste après la révolution, il a fait un discours devant le Parlement qui était terrible. Il a expliqué que la communauté LGBT donnait la migraine à la société. Quand on est Premier ministre, il faut donner l'exemple et parler des droits humains. Je n'ai plus d'espoir.
Au moment de la révolution, les manifestants soutenant les droits des personnes LGBT parlaient ouvertement de ces questions pendant les rassemblements. Ils espéraient notamment que Nikol Pachinian, qui voulait notamment faire une place plus large aux femmes en politique, soutiendrait aussi la communauté LGBT. En vain. Pour se sentir moins isolé et en sécurité, Vardan se rend au centre de l'ONG Pink Armenia, la principale association qui défend les droits de la communauté LGBT en Arménie. L'adresse n'est communiquée qu'à ceux qui en font la demande. Chaque année, 1000 membres visitent le centre. L'association organise aussi des séances de psychothérapie et des formations. Varn Markarian, la présidente de l'association, est installée sur les canapés de l'accueil de jour, face à la cuisine. L'association a récemment publié un communiqué demandant aux médias et aux partis politiques de cesser de publier des propos haineux et homophobes pour augmenter leur audience ou gagner des votes.
Par exemple, un ministre délégué du parti Arménie Prospère a demandé aux personnes LGBT de quitter l'Arménie, ajoutant qu'aucun d'entre eux ne devrait rester. Ça a été repris dans les médias, sur les réseaux sociaux, en commentaires, des gens écrivaient « Nous sommes d'accord avec vous, il faudrait les brûler, les tuer, il faut qu'ils partent, ce ne sont pas des êtres humains, ils n'ont rien à voir avec la société arménienne. Rien n'est fait pour sanctionner ces commentaires. »
Au département de sociologie de l'Université d'État d'Erevan, Lucie Karamian travaille comme professeure depuis 2004 sur les droits de l'homme, en particulier sur ceux de la communauté LGBT. À ses yeux, la montée des crimes homophobes est instrumentalisée par les politiques et les médias en raison de l'histoire arménienne.
L'Arménie est une société mono-ethnique. C'est une société traditionnelle et conservatrice où la famille est une institution qui repose sur les enfants. Comme les gens sont peu informés sur ce qu'est réellement la communauté LGBTQ, ils ont construit des mythes. Ils pensent que les homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants. Pour eux, c'est un problème puisque l'Arménie est un petit pays. Les homophobes disent que l'on ne peut pas être patriote et homosexuel car ils sont associés aux valeurs de l'Occident et pas à celles de la tradition arménienne.
En attendant la publication des programmes pour les prochaines élections du 9 décembre, les associations espèrent au moins une protection à minima, des lois qui punissent les discriminations, les discours, les crimes homophobes et haineux.
Et aux Pays-Bas, les élections se tiendront un peu plus tard, en mars prochain, des élections sénatoriales qui décideront du sort du gouvernement de droite de Mark Rutte en forte baisse dans les sondages. Et parmi les grands dossiers qui vont peser sur le vote, celui brûlant des retraites, à La Haye, Antoine Moutot.
Cela faisait déjà des années que le dossier des pensions était au point mort. Finalement, ces dernières semaines, gouvernement et syndicats se sont enfin mis autour de la table pour tenter de se mettre d'accord sur un nouveau système des retraites. Mais le débat est intense, les désaccords sont légion, à tel point que les négociations ont déjà été interrompues. Les syndicats soutenus par les partis d'opposition de gauche exigent que l'on ne repousse pas à nouveau l'âge de départ à la retraite, désormais fixé à 67 ans et 3 mois pour toute personne née après 1957. L'actuel système mis en place prévoit que cet âge est amené à évoluer en fonction de l'espérance de vie, donc forcément à la hausse. Les syndicats demandent également une meilleure indexation des retraites pour pouvoir mieux affronter les diverses augmentations du coût de la vie dans le pays. Et puis, autre problème de taille, celui des 77PERS, les travailleurs indépendants ou plutôt auto-entrepreneurs. Ils sont de plus en plus nombreux et représentent désormais près de 13% de la population active des Pays-Bas. Nombre d'entre eux ont opté pour ce statut faute d'emploi fixe. Concrètement, les 77PERS ont très peu de droits. Ils ne peuvent par exemple prétendre à aucune indemnité chômage, mais surtout, il leur est pratiquement impossible de cotiser pour la retraite. À moins de débourser plusieurs centaines d'euros par mois, une somme extravagante pour des revenus souvent très modestes. L'idée serait donc de contraindre les multiples employeurs de ces travailleurs indépendants à cotiser pour leur retraite, une idée à laquelle deux formations chrétiennes du gouvernement sont également sensibles, sauf que c'est hors de question pour la droite libérale du Premier ministre Mark Rutte, un parti soutenu par les employeurs du pays, mais qui risque gros à quelques mois des élections sénatoriales.
Et puisqu'on parle pouvoir d'achat, on parle impôts avec cette initiative plutôt décalée des services fiscaux britanniques. En cas d'erreur dans le calcul de ses impôts, le contribuable a le droit à une lettre d'excuse et un petit cadeau, les explications de Marie Billon à Londres.
Dites-le avec des fleurs, c'est la consigne que les chefs des services fiscaux ont donnée à leurs employés. Le HMRC, le fisc de Sa Majesté, a dépensé en 5 ans, jusqu'à cette année, l'équivalent de 11 761 euros en bouquet. Certaines années sont plus fleuries que d'autres, hein. 2900 euros dépensés en 2016 pour 1000 l'an passé. Une courtoisie inattendue de la part d'une institution peu portée sur la romance et qui ne dédouane pas le fisc pour autant, qui rectifie ensuite son erreur en pièces sonnantes et trébuchantes. C'est le quotidien Daily Telegraph qui a obtenu ces informations. On sait par exemple qu'un de ses contribuables qui a pu fleurir son salon aux frais du contribuable est le propriétaire d'un café dans la région de Stockport, dans le centre du pays. Il avait eu droit à un avis d'imposition de plus d'un milliard d'euros. Un autre de ces Britanniques qui a réceptionné des fleurs fiscales est un retraité qui aurait dû recevoir plus de 900 euros de remboursement pour finalement ouvrir une enveloppe contenant un chèque de 1 livre sterling. Alors évidemment, ouvrir sa porte et voir un livreur vous offrir un bouquet permet de mieux digérer l'erreur. Un porte-parole du HMRC a précisé que, pour certaines erreurs, simplement dire désolé n'est pas suffisant, envoyer des fleurs est un geste plus personnel. Mais les associations de défense des contribuables ne sont pas de cet avis. C'est une initiative coûteuse qui frise de ridicule, mais qui surtout ne règle rien, explique-t-elle. Alors, disent-elles, plutôt que de dépenser bêtement l'argent public en achetant des campanules et des soucis, mieux vaudrait s'atteler sérieusement à une réforme du prélèvement fiscal.
Nous sommes les premières cathédrales de l'époque industrielle. Des monuments d'acier, noircis par la suie et le charbon, emplis du bruit fracassant des locomotives à vapeur.
Gare de Milan, Saint-Pancras, Lyon, Anvers ou Budapest, dès ce soir, la chaîne de télévision franco-allemande Arte diffuse une série de documentaires sur les grandes gares d'Europe réalisées par Jérémy Fekete. L'occasion de regarder d'un autre œil ces immenses bâtisses, symboles de l'âge d'or industriel. Catherine Roland a rencontré Christian Pop, le producteur de la série.
D'une certaine manière, elles représentent la foi dans le progrès. C'est pour cela qu'on les appelle, nous, comme les cathédrales de l'âge industriel. Donc effectivement, elles symbolisent d'un côté la technologie, les chemins de fer, la technologie tout court, mais aussi une époque, la belle époque. Et c'était leur beauté, et leur taille, et leur grandeur, en fait, et leur puissance symbolique de cette époque-là dont on voulait parler.
Alors, on va les citer, peut-être. On va commencer, donc, la gare de Lyon à Paris, la gare Saint-Pancras à Londres, la gare de Milan, Budapest, et j'en oublie une,
Anvers.
Voilà. Alors, vous parliez des prouesses technologiques pour l'époque. Donc, il y a l'acier, les verrières, les dômes gigantesques. Qu'est-ce que les constructeurs et les architectes ont voulu démontrer à cette époque en faisant ces immenses bâtiments?
Alors, ces bâtiments avaient un côté pratique aussi. Donc, à l'époque, les locomotives étaient encore des locomotives à vapeur. Donc, il y avait beaucoup de vapeur, beaucoup de fumée. Donc, une certaine hauteur de plafond, si je puisse dire, était nécessaire. Mais cette raison plutôt pratique, elle est secondaire par rapport à un désir d'exprimer un pouvoir, soit d'une société privée, celle qui gérait la gare en question, soit politique. Donc si on parle de la gare de Budapest, la gare de l'Ouest, c'est une gare qui était construite par Gustave Eiffel, mais qui a été demandée par l'empereur pour montrer en fait l'union entre l'Autriche et l'Hongrie, donc l'Empire austro-hongrois, et effectivement relier Vienne et Budapest.
Oui, il faut rappeler qu'on est en plein air industriel, où effectivement les grands pays se développent, et il faut aussi donc démontrer sa puissance pour le pays, mais aussi démontrer sa puissance coloniale. C'est le cas par exemple pour la gare d'Anvers.
En effet. Donc Anvers, c'est une ville portuaire aussi. Et une petite anecdote, donc juste à côté de la gare d'Anvers, qui ressemble d'ailleurs un peu à Saint-Pierre à Rome, juste à côté, il y a le zoo qui, lui, de par son exotisme, l'exotisme des animaux qui sont présentés là-bas, est évidemment un symbole de l'ère coloniale, tout comme la gare.
Alors, autour des gares, souvent sont construits aussi d'immenses restaurants, des halls d'accueil pour accueillir les rois, les reines de l'époque, et puis également d'immenses hôtels. Donc il y a une vraie conception autour de ces monuments d'acier et de verre.
À l'époque, on considérait les gares vraiment beaucoup plus comme des lieux de vie, peut-être. En tout cas, le temps d'attente était beaucoup plus long. Donc, on s'installait dans la gare. Il y avait des salles d'attente qui étaient, de fait, de vrais salons d'accueil pour les grands de l'époque. Voyager à l'époque n'était pas donné à tout le monde. Donc, c'était quand même des voyageurs, soit bourgeois, soit aristocrates, qui fréquentaient ces gares en premier. Le train bleu, par exemple.
Oui, ou l'Orient Express.
C'était un événement. C'était quelque chose qui, à l'époque low cost, que ça soit l'avion ou le train, n'était pas donné à l'époque.
Alors quand vous parlez de nostalgie, est-ce que c'est pas aussi la nostalgie d'une époque où finalement on voyait le progrès et l'avenir de façon très positive?
Cette époque-là, elle était très technologique. C'est l'époque aussi avant la Première Guerre mondiale, il faut le dire. C'est-à-dire que c'était pas une époque pessimiste. Et donc cet optimisme s'exprime dans les constructions même, dans les trains, dans l'ambition que chaque compagnie ferroviaire ou chaque État qui gérait une gare avait. Et tout ça, évidemment, aujourd'hui, est à voir d'une manière différente, même si, évidemment, je souhaiterais que les trains, en général, aussi comme moyen de transport écologique, reviennent en force. Et donc, qu'on regarde ces gares aussi pour leur beauté, pour leur histoire, mais aussi pour leur fonction qu'ils peuvent ou qu'ils devraient avoir aujourd'hui, qu'ils ont de toute façon, mais on pourrait faire plus.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. On se dit à demain. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.